Deux années se passaient pour Elisa dans cette douceur matérielle de la vie, dans ce milieu de complaisance et de paroles flatteuses, dans cette domination acceptée de tout le monde, dans cette indépendance, presque ce bon plaisir de ses volontés et de ses actes. Tout à coup, les choses changeaient. La progéniture du maire entrait dans les bureaux d'un ministère à Paris, et le départ de la jeune influence replaçait Elisa dans la situation inférieure qu'elle avait dans le passé. La rancune de ses compagnes blessées par ses airs de princesse, les exigences de ses caprices, les foucades de son caractère, s'essayaient petit à petit à mordre sur elle, cherchant à se revenger à la sourdine avec la méchanceté savante dont les femmes, même des champs, ont le perfide secret. Le bonhomme gros sol, trouvé un matin d'hiver gelé à l'affût, n'apportait plus les dimanches la gaieté de son violon et de sa bien portante vieillesse. La Lorraine, attaquée d'un commencement de paralysie à la suite d'une congestion cérébrale, avait été portée à l'hôpital. Monsieur, dont jusqu'alors on ne connaissait pas la couleur des paroles, s'échappait hors de grosses colères venant de l'annonce d'une concurrence dans le voisinage. Et tout et partout, ce n'était que déplaisir pour Elisa, qui commençait à s'ennuyer des femmes, des hommes, du pays, en laquelle s'éveillait sourdement la sollicitation d'un changement de lieu et de demeure. Bientôt, la triste maison se remplissait du noir et de l'horreur que met entre quatre murs l'agonie furieuse d'un jeune mourant qui ne veut pas mourir. Le fils de la maison n'avait plus que quelques semaines à vivre, et chaque crise qu'il approchait du terme amenait une épouvantable scène où, dans la terreur de la mort, de sa bouche impitoyable, il injuriait sa mère, l'appelant de noms infâmes qu'on entendait de la rue, l'accusant de sa fin prématurée, criant que Dieu le punissait, lui, du sale métier qu'elle faisait. Elisa, par l'habitude que son enfance avait eue de soigner les femmes en couche, devenait naturellement la garde-malade de ce garçonnet. Les jours où il ne voulait supporter la présence ni de son père ni de sa mère, elle le soignait, elle le veillait, et au milieu de la disposition chagrine de son esprit et du douloureux de sa tâche, elle cherchait une distraction dans la lecture des livres, des romans qui traînaient sur le lit du jeune homme, et qu'il lisait comme un malade, en allant de l'un à l'autre dans les entr'actes de sa souffrance. Chez la femme du peuple, qui sait tout juste lire, la lecture produit le même ravissement que chez l'enfant. Sur ces cervelles d'ignorance, pour lesquelles l'extraordinaire des livres de cabinet de lecture est une jouissance neuve, sur ces cervelles sans défense, sans émoussement, sans critique, le roman possède une action magique. Il s'empare de la pensée de la liseuse, devenue tout de suite niaisement la dupe de l'absurde fiction. Il la remplit, l'émotionne, l'enfièvre. Plus l'aventure est grosse, plus le récit est invraisemblable, plus la chose racontée est difficile à accepter, plus l'art et le vrai sont défectueux et moins est réel l'humanité qui s'agite dans le livre, plus le roman a de prise sur cette femme. Toujours son imagination devient la proie pantelante d'une fabulation planant au-dessus des trivialités de sa vie et bâtie, fabriquée dans la région supérieure des sentiments surnaturels, d'héroïsme, d'abnégation, de sacrifice, de chasteté. De chasteté, ai-je dit, surtout pour la prostituée, la femme chez laquelle la science médicale a signalé la pureté des songes et l'espèce d'aspiration inconsciente de son être souillé vers l'immatérialité de l'amour. Le remords, ah, qui en expliquera le miracle? Le titre nous avertit que nous allons lire un mensonge, et au bout de quelques pages, l'imprimé menteur nous abuse, comme si nous lisions un livre où cela serait arrivé. Nous donnons notre intérêt, notre émotion, notre attendrissement, une larme parfois, à de l'histoire humaine que nous savons ne pas avoir été. Si nous sommes ainsi trompés, nous, comment l'inculte et candide femme du peuple ne serait-elle pas? Comment ne croirait-elle pas à sa lecture avec une foi plus entière, plus naïve, plus abandonnée, plus semblable à la foi de l'enfant qui ne peut lire un livre sans se donner à lui et vivre en lui? Ainsi, de la confusion et de la mêlée de ses sensations irréfléchies avec les choses qu'elle lit, la femme du peuple est impérieusement, involontairement amenée à substituer à sa personne le personnage imaginaire du roman, à se dépouiller de sa misérable et prosaïque individualité, à entrer forcément dans la peau poétique et romanesque de l'héroïne. Une véritable incarnation qui se continue et se prolonge longtemps après le livre fermé, heureuse de s'échapper de son gris et triste monde où il ne se passe rien, elle s'élance vite à travers le dramatique de l'existence fabuleuse. Elle aime, elle lutte, elle triomphe de ses ennemis, ainsi que s'expriment les tireuses de cartes. Elle a maintenant enfin, par l'exultation des sens, par une grossière ivresse de la tête, les aventures du bouquin. Le cabinet de lecture de Bourlemont, sur lequel était tombée Elisa, était bien la bibliothèque qu'il lui fallait. Une centaine de petits volumes ressemblant dans leur reliure de basane à des semaines saintes de village, et dont l'allocation s'ajoutait à la vente d'almanachs liégeois et d'animaux en sucre cerise d'une boutique faubourienne, formaient, rassemblés par le hasard, une réunion hétéroclite des romans qu'avait fait publier en France l'insurrection de la Grèce en 1821. C'était, dans le décor d'une féerie et d'un Orient baroque, des palicares héroïques, des captifs grecs, résistant à des pachas violateurs, des combats singuliers dans des souterrains, des incendies, des captivités, des fuites, des délivrances, et toujours à la fin, le couronnement légal des feux de l'amant devant un maire de Sparte ou d'Argos. Tout l'épique du boulevard du crime, tout le faux chevaleresque, tout le faux amoureux, capable de transporter dans le bleu d'un troisième ciel la terre à terre des idées d'une fille, gagnant avec son amour pauvrement son pain dans une laide petite ville de province. Au milieu de ces romans se trouvaient d'autres romans, produits par le mouvement religieux de la Restauration, et promenant en Judée des idées néo-catholiques dans des suppléments à l'itinéraire de Paris à Jérusalem, des romans ou des pèlerinages pieux à la recherche d'une rose mystique s'entremêlaient dans la vallée de Josaphat, avec des légendes pieuses, avec de la minéralogie, avec des histoires de brigands, avec des amours platoniques. La lecture était devenue une fureur, une rage chez Elisa. Elle ne faisait plus que lire. Absente de corps et d'esprit de la maison, la fille, autant que lui permettait l'idéal bas et borné de sa nature, vivait dans un vague et généreux soulèvement, dans le rêve éveillé d'actions grandes, nobles, pures, dans une espèce d'hommage de son cerveau à cela que son métier lui faisait profaner à toute heure. « Elisa, madame, monte, ma fille !» Le dialogue avait lieu du haut en bas de l'escalier. « De quoi, madame ?» fit Elisa, arrivée sur le seuil de la chambre, la porte toujours ouverte. « Qu'est-ce qu'on me dit ? Des messieurs se plaignent que vous n'êtes plus amoureuse ?» « En voilà un renom propre pour ma maison. C'est les sales livres que tu lis toute la journée. Allez un peu vite que tu vas me ficher tout ça dans les lieux de l'enfer, hein, petite traînée. » Jamais madame, d'habitude toute sucrée et toute mielleuse, et dont les observations étaient toujours adoucies par une voix hypocritement plaignarde, ne prenait avec une de ses femmes un pareil ton. C'est que l'ignoble vieille femme avait de chaudes entrailles pour son enfant et que la désespérée jalousie qu'elle éprouvait au fond de son cœur déchiré de voir l'agonie du mourant accepter les soins d'Elisa et repousser les siens éclatait, sur un prétexte quelconque, en la plus outrageante bordée d'injures. Aussi, après le premier étonnement de ces paroles lui tombant à l'improviste sur la tête ainsi que des soufflets, le mouvement instinctif de la rageuse Elisa fut-il de se précipiter sur la grosse femme que la peur faisait tomber de sa chaise pendant qu'Elisa roulait sur son corps dans une violente attaque de nerfs. Après 2 heures de soins, de tapes dans les mains, d'aspersion du vinaigre des 4 voleurs, Elisa, revenue à elle au milieu d'un flot de paroles, dont les notes irritées étaient mouillées de larmes, déclarait qu'elle ne resterait pas 1 minute de plus dans un endroit où on la traitait ainsi. Elle grimpait dans sa chambre, commençait à trier ses affaires de celles de la maison, les entassait pêle-mêle dans sa malle de bois au couvercle de poils de sanglier. Monsieur, très désagréablement surpris de se voir quitté par le premier sujet de son établissement, sa casquette à la main montait prier Elisa de ne point s'en aller. Quelques instants après, apparaissait madame, suante et soufflant, suivie de toutes les filles de la maison, qui derrière elle, les unes portant une pansonne laine, les autres un bouquet, faisaient avec des figures de circonstance, dans l'escalier en spirale, une longue et théâtrale procession. La grosse femme, en pleurnichant, disait qu'elle était bien malheureuse, s'excusait sur le chagrin qui la rendait quasiment folle. Puis elle poussait dans les bras d'Elisa ses 7 femmes, qui tour à tour embrassaient leur compagne, cherchant à la retenir avec des caresses, avec des mots d'amitié, avec la désolation de commande peinte sur leur visage, avec le petit cadeau qu'elle tournait entre leurs doigts bêtes. Elisa demeurait inébranlable. Elle était la volonté entêtée qui ne revient jamais sur une décision de sa colère, et selon son expression, elle aurait mieux aimé se faire piler que de céder. Tout ce que pouvait obtenir le cœur suppliant, répandu dans la chambre, sur le palier, sur les marches de l'escalier, encore avec bien de la peine, et en faisant appel à la pitié d'Elisa pour le mourant, c'était la concession d'une ou 2 semaines. Il y avait longtemps que plus rien n'attachait Elisa à la maison. Même, depuis quelques jours, la conception vague d'une résolution bizarre et généreuse la poussait vers la porte. Dans l'enfoncement de sa pensée parmi les romans du cabinet de lecture de Bourlemont, dans cette existence cérébrale pendant des mois, en plein milieu d'actes d'héroïsme et de dévouement, Elisa s'était sentie mordue du désir d'accomplir des actions se rapprochant de celles qu'elle avait lues, et un besoin impérieux de se dévouer à sa façon tourmentait son cœur de fille. Son imagination appelait, pour lui offrir l'hommage et le sacrifice de sa vie, un homme se montrant à elle, dans l'émouvant cortège des dangers, des périls, des luttes mortelles, au milieu desquels elle voyait marcher ses palicares. Alors, un soir, était tombé dans sa chambre un commis voyageur qui déposait sur sa table de nuit des pistolets, un poignard, enfin tout un arsenal de guerre. Les paroles de cet homme ne racontaient que des prises d'armes, des tueries, des meutes, des scènes sanglantes de nature à donner la chair de poule à une femme. À la lueur de la bougie, placée derrière sa carte de visite, le commis voyageur faisait voir à Elisa un bonnet de la liberté dans un triangle égalitaire. Il prononçait à voix basse le nom d'une redoutable société secrète travaillant dans l'ombre à renverser le gouvernement. L'inquiétude de son corps, le coup d'œil furtif et circulaire de ses yeux, disait le conspirateur traqué par la police, craignant à tout moment de voir jaillir un agent d'un placard. Avant de se coucher, il roulait la commode devant la porte. Il avait demandé du champagne, et quand il fut gris, il commençait à s'apitoyer sur sa jeunesse, sur la courte vie que devait, hélas, bientôt terminer la guillotine ou le peloton d'exécution. Par cette mort qu'il tenait suspendue sur sa tête, par ce passé d'affiliation ténébreuse, par le prestige mystérieux sur le peuple de ce mot « membre de la Marianne », ce commis voyageur semblait l'homme dépêché par la fatalité pour s'emparer de l'intérêt romanesque de la misérable femme. C'était en chair et en os le héros évoqué par les rêves d'Elisa. Quelques jours après la scène avec madame, Le commis voyageur, qui avait achevé sa tournée de Bourlemont, venait faire ses adieux à la fille. Elisa lui demandait dans quelle ville il allait et quel jour il y serait. Aujourd'hui, dans la ville qu'il avait nommée, le commis voyageur, arrivant du chemin de fer, son sac de nuit à la main, à l'heure où s'allumait le réverbère, fut très étonné de voir s'avancer à sa rencontre, tout en battant le pavé, une femme qui était Elisa. « Toi, ici ? Mais ne m'avais-tu pas dit que tu y serais aujourd'hui ? Eh bien, m'y voilà. Et maintenant, tu me trouveras comme ça, oui, tu me trouveras partout où tu iras. » À partir de ce jour, commença pour Elisa une vie voyageuse et ambulante, une existence nomade promenée de province en province, par l'itinéraire du commis voyageur, une succession de courts embauchages dans les maisons de prostitution du nord, du midi, de l'ouest, de l'est de la France. Un mois Besançon l'avait, un mois Nantes, un mois Lille, un mois Toulouse, un mois Marseille. L'installation de la fille précédait de quelques jours l'arrivée de l'amant de cœur. Partout là où allait son homme, Elisa s'arrangeait pour qu'il trouvât gratis aux débeautés l'amour et la servitude d'une esclave. Les duretés, les ennuis, les fatigues de cette perpétuelle et toujours recommençante pérégrination, Elisa, sans même demander un merci, les supportait avec la sereine et inlassable constance de l'abnégation. Elisa, cependant, n'aimait vraiment pas rien d'une de ces passions physiques qui viennent à une femme de sa classe par des causes secrètes et inconnues pour un mal spécial, ne remuait ses sens. Son cœur n'avait point été touché. Le commis voyageur n'était au fond pour cette femme à la cervelle échauffée que le prétexte à un dévouement prêt à jaillir depuis des mois au profit du premier passant. Disons-le, dans ces liaisons de femmes à hommes, où la femme se fait la protectrice de l'homme, prend à charge et assume sur elle son bonheur, le manque d'amour est plus commun qu'on ne croit. La créature a cédé à un attendrissement psychique, à un de ces mouvements de charité humaine, en trouvant un cœur, et, immobile au-dessus des choses sensuelles, décide la plupart du temps de ses adoptions aveugles, où l'être qui se donne se paye en pleine infamie par le contentement pur des actions désintéressées. Le plus souvent dans ce rôle tutélaire de la fille, vous ne trouverez que la satisfaction légitime d'une faiblesse protégeant une force, et encore le sentiment à ses propres yeux du relèvement et du rachat de cette fille au milieu de la vénalité du métier. Il existe dans l'immonde profession un besoin instinctif de la femme et plus fort que son égoïsme, de créer, de bâtir avec ses privations et ses souffrances une félicité d'homme. Très souvent, dans la prostitution, cette immolation d'une femme au profit d'un homme vil, oui, mais qu'importe, cette immolation prend quelque chose d'une touchante maternité, en a les complaisances, les indulgences, les éternels pardons. Au bout de quelques mois, ce n'était plus seulement son amour qu'Elisa donnait à son conspirateur. C'était l'argent de ses cigares, puis l'argent de ses dépenses de café, puis l'argent de toutes choses, l'argent pour assoupir les dettes criardes des années précédentes, l'argent pour payer les frais arriérés d'une prétendue condamnation, enfin tout l'argent que gagnait Elisa. Ses chemises usées, elle arriva à ne pouvoir les remplacer, et n'eut bientôt plus à se mettre sur le dos que la robe indispensable pour faire le trottoir. En récompense de cette misère, Elisa n'obtenait cependant que des paroles à l'adresse d'un chien, parfois des coups. Et la femme, aux mains batailleuses, se laissait maintenant frapper sans se rebiffer. Elle ne se plaignait pas, ne se lassait pas, ne se rebutait pas. De jour en jour plus maltraitée et plus dépouillée, elle devenait plus douce, plus soumise, plus prévenante, comme si elle trouvait, parmi les impitoyables exigences de l'entretenue, un martyr aux douces et exaltantes tortures. Il semblait qu'Elisa ressentait une jouissance orgueilleuse dans le sacrifice, et on aurait vraiment dit qu'elle était reconnaissante à cet homme de tout ce qui lui faisait souffrir dans son âme et dans sa chair. Un jour, la frénésie de son dévouement pour son bourreau éclatait en ce cri sauvage. « Cet homme, je ne sais pas si je l'aime, mais il me dirait « Ta peau, je la veux pour m'en faire une paire de bottes » que je lui écrirais « Mais prends-la !» Les débats d'un grand procès politique qui remplissait la France de son bruit apprenaient peu de temps après à Elisa que son héros de société secrète était un mouchard, un agent provocateur. Dans une batterie terrible, elle se séparait de son amant, lui crachant au visage le mépris qu'a la fille pour l'homme de police inférieure. Et Elisa redevenait une prostituée, semblable à toutes les prostituées, avec, depuis cette liaison, quelque chose de haineux et de mauvais contre l'autre sexe, pareil à ce qui se cabre et prêt à mordre dans ce chevau baptisé « méchant à l'homme ». Une grande chambre au plancher sordide, éclairée par le demi-jour de persiennes closes. Dans cette chambre, assises sur des chaises de paille, des femmes en cheveux et décolletées, dont les robes de soie sont soigneusement relevées au-dessus du genou. Quelques-unes de ces femmes, les mains enfoncées dans des manchons, se tenant par habitude autour d'une plaque en fer dans le parquet, sous le coup d'un tuyau de poêle démonté. Le long des quatre murs, une grande armoire à robes en bois blanc, portant écrits au crayon dans le milieu des nœuds du sapin, ainsi que dans le cœur gravé sur l'écorce d'un arbre, deux noms et une date amoureuse. Pêle-mêle, sur le haut de l'armoire, des branches de buis bénies des années passées, avec des tasses posées sur le côté où sèche du marc de café. Au centre de la pièce, une table de cuisine, en un coin de laquelle parfois une femme se penche pour faire une patience avec des cartes poissées. Deux ou trois femmes, rapprochées des fenêtres, brodent toujours salies par les reflets d'une cour ouvrière et filtrant entre les lamelles des persiennes. Les autres demeurent paresseusement, dans des avachissements fantomatiques, avec le blanc de leur col et de leur fichu, prenant autour des figures, dans ce crépuscule qui est là, la lumière de toute la journée, la crudité des blancs dans de vieux tableaux qui ont noirci. Cette chambre, appelée le poulailler, est le local misérable dans lequel la maîtresse de maison, pour économiser le velours du trecht de son salon, tient ses femmes toute la journée, en ces quartiers où l'amour ne vient guère en visite que le soir. Le temps est long dans cette obscurité, en cette nuit du jour où, sous la duvet des heures lentes, s'assombrit la pensée, se tait à la fin, dans un silence de mort, la parole bavarde de la femme. Enfin 3 heures. 3 heures et le merlan. Rouillolement de l'artiste capillaire dans l'escalier, aussitôt les immobilités, les endormements ennuyés de se réveiller dans un retirement de bête, de se secouer et de quitter leurs chaises. Le petit réchaud à chauffer les fers est allumé, est installé en un clin d'œil sur la table. Déjà les femmes, à la mine mendiante d'enfants, demandant qu'on leur conte des histoires, se pressent contre le jeune homme au toupet en escalade. Et tout le temps que le peignoir passe, des épaules de l'une sur les épaules de l'autre, toutes faisant cercle autour de l'homme au peigne, et toutes appelant ses réponses en même temps, lui arrachant de la bouche ce qui se passe, ce qui se dit, ce qu'il a vu, le presse enfin de parler, sans qu'il ait rien à dire, avide dans cet enfermement grisâtre d'entendre quelqu'un leur apportant quelque chose du dehors de la rue, du Paris, vivant et ensoleillé. Puis, le coiffeur parti, dans l'air où d'invisibles araignées semblent tisser leur toile couleur de poussière, revient l'ennui de cette vie de ténèbres, et cela jusqu'à l'heure où, parmi le flamboiement du gaz, se lève le jour de la prostitution. Ces journées étaient les journées de la nouvelle existence parisienne d'Élisa. Le moment était venu. Un foulard blanc au cou, sur la tête un chapeau de velours noir avec un bouquet de géranium ponceau, Élisa, dans la triste et neutre toilette du vice pauvre, enfournait le caraco banal, bordé de poils de lapin qui servait tour à tour à toutes les filles de la maison. Au dehors, qu'il plût, qu'il neigeât, qu'il gelât, bien portant ou malade, Élisa était tenue de faire son heure dans la pluie, la neige, la bise, la froidure. Elle sortait de l'allée où la lampe de l'escalier mettait sur l'humidité des murs un ruissellement rougeoyant et se lançait sur le trottoir. Un trottoir côtoyant de vieilles bâtisses ressoudées tant bien que mal, interrompu par les rentrants des maisons bâties d'après le nouvel alignement, coupé çà et là par des bornes défendant des entrées de cour, noyé par l'eau du ruisseau au moindre orage. Elle allait, revenait sur le trottoir, marchant vite et retroussée haut, la tête tournant à droite, à gauche, en arrière, à tout bruit de bottes sur le pavé, la bouche susurrant « Monsieur, écoutez donc !» Elle allait, revenait, donnant à voir sous sa jupe remontée les deux mains la provocante blancheur de son bas jusqu'aux genoux. Elle allait, revenait, les hanches remuantes de tordillons, faisant faire sur le trottoir à son jupon empesé le bruit d'un balai de bouleau dans les feuilles mortes. Elle allait, revenait, barrant le trottoir à tout passant avec ici et là la double avance d'un corps imitant le lascif balancé d'une contredanse. Le long des murs verdâtres, au milieu des sales ténèbres, fouettées d'ombre et de lueurs de gaz errantes sur le ballonnement et l'envolée de sa marche, Élisa allait, revenait sur le trottoir, tout à la fois provocante et honteuse, tout à la fois hardie et craintive, tout à la fois agressive et peureuse des coups. 50 pas, 25 pas en deçà, 25 pas au-delà de l'entrée de l'allée, c'était la promenade réglementaire d'Élisa, promenade limitée entre la maison portant le numéro 17 et un terrain vague. La voici devant l'atelier de recanage qui avait comme enseigne deux chaises dépaillées en saillie au-dessus de sa porte. Puis devant le marchand d'abats, où dans un rentrant de fenêtre pendant le jour s'installait une friturerie de beignets. Puis devant le coiffeur, puis devant la maison noire où se balançait à une fenêtre grillée du second étage une épaulette de soldat de ligne, apportée là par les hasards d'une émeute. Puis devant une remise de voiture à bras, puis devant un fournisseur de cordes à boyaux pour archets, dont les volets étaient peints de grands violons, couleur de sang, puis enfin devant une palissade renfermant les ruines d'une construction effondrée. Et cela fait, Élisa recommençait, avec l'ennui irrité de revoir 60 fois dans une heure les mêmes maisons, les mêmes devantures, les mêmes pierres. La sortie d'Élisa avait lieu, quand elle pouvait l'obtenir, en ces commencements de nuit parisienne, où le pâle faîte des maisons se perd dans l'azur décoloré d'un ciel resserré entre deux toits, tout au haut duquel tremblote une petite étoile. Le plus souvent, Élisa était dehors en des heures reculées, qui n'ont pour lumière, dans le lointain endormi et le ciel enténébré, que les rondes lanternes des hôtels où on loge à la nuit. Bientôt, les passants se faisaient rares. Dans la rue, il n'y avait plus, et encore de temps en temps, qu'un ivrogne attardé qui pissait contre la palissade en parlant tout haut. L'une après l'autre, les boutiques s'étaient éteintes, puis fermées. Seule la lueur d'un quinquet chez le coiffeur mettait un rayonnement trouble dans les vieux pots de pommade de la devanture, montrant, sous un éclairage fantastique, deux petits bustes, et sur un commencement de gilet rose et sur une cravate bleue de ciel, riait une tête de négrillon aux cheveux crépus, sous un chapeau gris et un chapeau joujou, et le négrillon avait comme pendant, sous un autre petit chapeau mais noir, un joli jeune homme aux cheveux blonds frisés et en cravate blanche, attaché par une broche avec de petites moustaches sur le bois colorié de sa figure. Ainsi que les choses lumineuses dans l'obscurité prennent forcément le regard, les deux petits bustes, chaque fois que passait devant eux Elisa, arrêtaient la promeneuse, la retenaient de longs instants, pendant lesquels, dans la fatigue de ce manège sur place, dans l'ahurissement de cette promenade toujours allante et revenante, ses yeux, sans la conscience de ce qu'il regardait, contemplait stupidement les deux poupées macabres. Soudain, Elisa, donnant un coup de plat de main sur sa jupe, se redressant, relevant la tête, reprenait un moment sa marche qui, sur le pavé gras, sur le pavé mouillé de toutes les lavures de boutique, perdait bientôt son impudique élasticité et devenait lente, paresseuse, traînarde. Enfin, le coiffeur couché, la rue déserte, Elisa continuait à aller à venir en compagnie de son ombre, mettant un peu derrière elle, sur les affiches blanches de la palissade frappée par le réverbère, la lamentable caricature de la prostituée battant son quart dans la nuit solitaire. « Mon enfant, vous êtes à l'amende !» C'était madame qui, pendant le dîner, faisant le tour de la table et passant la main dans le dos d'Elisa, la surprenait sans son corset. La semaine suivante, il y avait une nouvelle amende prononcée contre Elisa par madame, qui affichait la plus grande rigidité au sujet de la tenue de ses femmes, et une autre semaine encore, une autre amende. Si bien qu'Elisa désertait la maison au bout de 2 mois et allait dans la maison de la rue voisine. Là, presque aussitôt, une dispute avec une camarade la faisait quitter le bazar. Elle changeait de nouveau, ressortait d'une construction au plâtre mal essuyé dont elle emportait une fraîcheur. Elle ne demeurait guère plus dans un établissement où elle ne voulait pas permettre aux lanterniers de s'immiscer dans ses affaires. Et pour un motif légitime ou absurde, pour une raison quelconque, la plupart du temps pour un rien et sous le prétexte le plus futile, elle abandonnait brusquement les murs au milieu desquels elle vivait depuis quelques semaines, transportant sa petite malle et son humeur voyageuse à 2 ou 3 portes de là. Pendant l'espace d'un petit nombre d'années, Elisa faisait ainsi les maisons des rues qu'un ancien livre nomme « des rues chaudes », les maisons de la rue Bourbon-Villeneuve, de la rue Notre-Dame de Recouvrance, de la rue de la Lune, du passage du Caire, de la rue des Filles-Dieu, de la rue du Petit Carreau, de la rue Saint-Sauveur, de la rue Marie-Stuart, de la rue Françoise, de la rue Beaucosseil, de la rue Pavé-Saint-Sauveur, de la rue Thévenot, puis les maisons de la rue du Chantre, de la rue des Poulies, de la rue de la Sonnerie, de la rue de la Limace, toutes les obscures et abjectes demeures de ces 2 quartiers du cœur industriel de la capitale, formant, il y a 30 années, le 4e et le 6e lot de la prostitution non clandestine de Paris. Est-ce besoin qui est de changement, en cet incessant dégoût du lieu habité et des gens déjà pratiqués, en cette perpétuelle et lunatique envie de nouveaux visages, de nouvelles compagnes, de nouveaux milieux? Elisa obéissait à cette loi qui pousse d'un domicile à un domicile, d'un gîte à un gîte, d'un antre à un antre, d'un lupanard à un lupanard. La prostituée est toujours en quête d'un mieux qu'elle ne trouve pas plus que l'apaisement de cette mobilité, ne permettant à son existence circulante que de stationner le temps de s'asseoir sous le même toit. L'ébranlement perpétuel du système nerveux par le plaisir, en un corps qui ne l'appelle ni ne le sollicite, la nourriture à la viande noire, flanquée des quatre saladières de salade aux harengs, sort de fondation, les excès d'alcool sans lesquels une fille, devant une commission, déclarait « Vraiment, le métier pas possible !» L'abus de l'eau-de-vie de maison publique, qui est comme de l'eau dans la bouche et une brûlure dans la gorge, les journées claustrales aux persiennes fermées, les journées de ténèbres avec l'ennui splinétique des jours de pluie, de neige, du vilain temps de Paris, les brusques transitions de ces passages de la nuit du jour au jour flamboyant de la nuit, et des heures vides, d'heures aux heures délirantes, la fatigue insomnieuse d'une profession qui n'a pas d'heure, qui appartient à l'ouvrière, la discipline taquinante d'un gouvernement de vieilles femmes, la constante inquiétude d'une dette qui grossit toujours et poursuit la femme de maison en maison, la perspective chez une fille d'amour vieillissante du lendemain, du jour où partout on la repoussera avec cette phrase « Oh ma fille, tu es trop vieille !» Les séjours au dépôt à Saint-Lazare, d'anxiété folle de n'en jamais sortir et d'y être éternellement retenu par le bon plaisir de la police. Le découragement de se trouver sur la terre hors du droit commun et sans défense et sans recours contre l'injustice. La conscience obscure de n'être plus une personne maîtresse de son libre arbitre, mais d'être une créature tout en bas de l'humanité, tournoyant au gré des caprices et des exigences de l'autorité, de la matrulle de qui passe et qui monte, une pauvre créature qui n'est pas bien persuadée au milieu des restes de sa religiosité que la miséricorde de Dieu puisse s'abaisser jusqu'à descendre à elle. Le sentiment journalier de sa dégradation joint à la susceptibilité mortelle de son infamie, toutes ces choses physiques et morales par lesquelles vit et souffre l'existence antinaturelle de la prostitution avaient à la longue façonné dans Elisa l'être infirme et déréglé représentant dans la femme primitive modifiée le type général de la prostituée. Un esprit mobile, inattentionné, distrait, fuyant, vide et plein de vagues, ne pouvait s'arrêter sur rien, incapable de suivre un raisonnement, tourmenté du besoin de s'étourdir de bruit, de tapage, de loquacité. Une imagination où, dans la terreur religieuse d'un de ces cultes de l'Extrême-Orient pour ses divinités du mal, est assis tout en haut des tremblantes adorations de la femme, monsieur le préfet de police. Une imagination frappée, toujours troublée par des appréhensions, par des craintes, par des peurs de l'inconnu d'un avenir fatal, dont elle va d'avance demander le sérieux et le secret aux tireuses de cartes. La justice et une mort prochaine avaient prédit à Elisa une pitonisse de la rue Gillecoeur. La prédiction revenait souvent dans l'effroi de sa pensée nocturne. Une raison qui a perdu le sang-froid, qui est toujours au bord des résolutions extrêmes, du risque tout, d'une tête perdue, une cervelle malade traversée à la moindre contradiction des colères convulsives de l'enfance, toutes prêtes à mettre aux mains de la femme le peigne à chignon, faisant à la blessée des blessures dont elle ne guérit pas toujours. Ça, c'est l'être psychologique, mais l'être physiologique, avec les diversités des organisations, des tempéraments, des constitutions, se personnifie moins bien dans une individualité. Cependant, Elisa présentait certains caractères génériques. Elle commençait à prendre un peu de cette graisse blanche, obtenue ainsi que dans l'engraissement ténébreux des volailles. Il y avait chez elle cette distension de la fibre, cette molasserie des chairs, ce développement des seins. et ses lèvres, toujours un peu entr'ouvertes, étaient ces lèvres où le ressort du baiser semble comme cassé. Elisa entrait alors dans une maison de l'avenue de Suffren, vis-à-vis de la façade latérale de l'école militaire, en face de ce grand mur jaune, montrant à toutes ses fenêtres des bustes de soldats en manches de chemise. La maison faisait partie d'un pâté de construction, logeant des industries misérables ou suspectes, flanquées de bouchons écrasés sous le nom sonore d'une de nos grandes batailles. C'était d'abord, à l'angle de l'avenue et du boulevard de Lowenwendal, la boutique loqueteuse d'un brocanteur d'effets militaires. Aux murs, confondus avec d'antiques carriques de cochers de coucou, se balançaient de vieux manteaux rouges de cuirassiers, des vestes pourries de hussards, des pantalons d'étain à la doublure de cuir entre les jambes. À travers les carreaux verdis des deux fenêtres se voyaient vaguement, ainsi que de la boue, du fumier et de la rouille, des plumets, des gants d'armes, des tabliers de sapeurs précieusement roulés, des paquets de rasoirs, des bottes d'effilés, d'épaulettes, des chapelets de boutons d'uniforme et des dragonnes de sabre dans des litrons à noisettes. Après, le revendeur de la défroque de la gloire venait une longue et sinistre maison basse, aux volets hermétiquement fermés, sans une apparence de vie intérieure, derrière son mur peint en vert, couleur d'eau croupie où s'étalait superbement Hôtel de la Victoire. À droite de l'hôtel garni était appuyée une petite construction en bois, montée avec des matériaux de démolition sur laquelle on lisait « Au petit bazar militaire ». Un invalide y vendait pendant la journée des savons, des pommades, des eaux de senteur provenant de la faillite de parfumeries infimes. Le bazar touchait à un marchand de vin annonçant sur sa muraille « Petit noir à 15 centimes » et ayant pour enseigne « Au pont de Lodi ». Après un rideau sale était attaché par une épingle une ancienne affiche du théâtre de Grenelle, « Le monstre magicien ». La cinquième maison où demeurait Elisa était la belle maison de l'avenue. Elle avait deux étages. Sa porte d'entrée s'avançait sur la chaussée, décorée de ces verres de couleur qui font l'ornement des kiosques. Les fenêtres du rez-de-chaussée étaient garnies de glace dépolie à arabesque. Les fenêtres de l'entresol étaient fermées par des persiennes vertes. Une teinte claire égayait la façade. Des panneaux peints imitaient de transparentes plaques de marbre. Sur le panneau central se détachait le numéro figuré par deux énormes chiffres dorés. À la suite de la maison au gros numéro, on apercevait au-dessus d'une brèche, en un vieux mur, un toit de hangar et de grand soleil. Entre leurs efflorescences d'or, séchait l'été du pauvre linge de soldats. Plus loin, dans la continuation du mur, une porte menait à une façade en vitrage sous un auvent de treillage, à un bâtiment de plâtras rapiécé de planches, qui était un jeu de quilles couvert pour l'amusement des militaires, les jours de pluie et de neige. Il y avait encore un rustique café de village, portant écrit sur une bande de papier collée à son unique fenêtre « Au rendez-vous des trompettes ». Puis se dressait un baraquement où s'était installé un réparateur de vélocipèdes, étalant sur la voie toute sa ferraille roulante, au milieu d'un public d'enfants traînant dans la poussière un derrière culotté du rouge d'une vieille culotte de la ligne. Presque aussitôt commençait une interminable palissade, enfermant dans les terrains non bâtis jusqu'à la Seine, des pierres de taille et des pavés. Une palissade toute noire d'affiches à la redingote grise. À la nuit, la maison au gros numéro, morne et sommeillante pendant le jour, s'allumait et flambait par toutes ses fenêtres comme une maison enfermant un incendie. 10 lustres multipliés par 20 glaces plaquées sur les murs rouges projetaient dans le café, dans le long boyau du rez-de-chaussée, un éclairage brûlant, traversé de lueurs, de reflets, de miroitements électriques et aveuglants, un éclairage tombant comme une douche de feu sur les cervelets des buveurs. Au fond, tout au fond de la salle, resserrée et profonde, ayant l'infini de ces corridors de lumière d'un grossier palais de féerie, confondues, mêlées, épaulées les unes aux autres, les femmes étaient ramassées autour d'une table, dans une espèce d'amoncellement pyramidant et croulant. Du morceau de linge blanc et de chair nue s'avançaient à toute minute des doigts fouillant à même dans un paquet de marilans commun et roulant une cigarette. À une des extrémités, une femme assise de côté, les jambes allongées sur la banquette et soutenant un peu de l'effort de son dos l'affaissement du groupe, épuçait une chatte qui tenait une patte raidie arc-boutée sur un de ses seins dans un défiant et coquet mouvement animal. Un jupon blanc sur une chemise aux manches courtes était toute la toilette de ces femmes, toilette montrant dans le décolletage d'un linge de nuit et de lit leurs bras, la naissance de leur gorge, chez quelques-unes l'ombre duveteuse du sinus de leurs épaules. Tout au-dessus de deux accroche-cœurs avait échafaudé une haute couture coiffure extravagante parmi laquelle couraient des feuilles de vigne en papier doré. Plusieurs portaient sur la peau du cou, une élégance du lieu, d'étroites cravates de soie dont les longs bouts roses ou bleus flottaient dans l'entre-deux des seins. Deux ou trois s'étaient fait des grains de beauté avec des pépins de fruits. La porte persienne du café commençait à battre. Les pantalons garants se cognant leurs sabres baïonnettes au tabouret, les hommes à casque trébuchant dans leurs lattes prenaient place aux tables. À mesure que l'un d'eux s'asseyait, du tas de femmes, une fille se détachait et, chantonnante et la taille serrée entre ses deux mains, venait se piéter tout contre le nouvel arrivé, laissant déborder sur le drap de son uniforme ses nudités molles. Au comptoir, au milieu des fioles colorées, reflétées dans la grande glace, trônait la maîtresse de la maison. Coiffée d'une magnifique chevelure grise, relevée en diadème et où demeurait encore une jolie nuance blond cendré, la vieille femme, qui avait quelque chose d'une antique marquise de théâtre, était habillée d'une robe ressemblant à une tunique de magicienne. Une robe de satin feu avec des appliques de guipure. Debout, un coude posé sur le comptoir, son mari, oh, un tout jeune homme aux favoris corrects, une grosse chaîne d'or brinque-ballante à son gilet, est frêle et charmant dans une veste de chasse dont le coutil laissait apercevoir au biceps le sac de pommes de terre du savatier, faisait, au bout d'une longue baguette, exécuter des sauts à deux petits chiens savants. Les tables s'emplissaient, des militaires de toutes armes se tassaient les uns sur les autres. C'étaient des lignards, des zouaves, des artilleurs, des dragons, des carabiniers. Même à un moment, la porte s'entr'ouvrait, un garçon appelait le maître de la maison, et l'on voyait tirer d'une petite voiture un invalide cul-de-jatte que les deux hommes déposaient sur la banquette. Et aussitôt, entouré de tasses, de verres et imbibé de café, de liqueur et de bière, le glorieux tronc tout guilleret, tout branlant sur ses assises de poussard, racontait ses campagnes à la femme qui était venue s'asseoir à côté de lui. Les deux garçons aux longues moustaches noires couraient de tous côtés. Les consommations s'accumulaient sur le marbre des tables. La parole devenait bruyante. Sur les voix de l'infanterie s'élevaient les voix impérieuses et sonores de la cavalerie. d'un bout de la salle à l'autre, se croisaient dans l'air par instants des injures de femmes. Sous les crânes tondus, des ivresses batailleuses montaient aux rouges faces. Il y avait de nerveux remuements d'armes et le tumulte de la salle grondait comme un bruit de colère. De l'escalier menant à l'étage supérieur, descendait quelquefois, avec le grincement de pleurs rageuses, le glapissement d'une vieille s'écriant « On croit avoir affaire à des hommes et pas à des lions !» La chaleur devenait étouffante dans l'atmosphère flamboyante de gaz et de punch, et les gouttes de sueur sur la peau des femmes laissaient des traces noires à travers le maquillage à bon marché. Les partants étaient remplacés par des nouveaux arrivants auxquels se mêlaient des hommes en chapeau gris et en casquette. Plus tapageuses, plus braillardes, continuaient l'orgie en dépit de la somnolence des femmes. Des femmes se tenaient la tête renversée en arrière, les mains nouées sous leurs chignons à demi défaits, les paupières battantes, le fauve de leurs aisselles au vent. Parmi les bras qu'on apercevait ainsi tout nus, l'un d'eux portait, tatoué en grandes lettres, « J'aime », avec au-dessous le nom d'un homme biffé, raturé, effacé, un jour de colère dans la douleur de la fièvre d'une chair vive. D'autres femmes, un genou remonté, enserré entre leurs deux bras, et penché et retourné de l'autre côté, cherchaient à s'empêcher de dormir en tenant une joue posée sur la fraîcheur du mur. Un moment, la vue d'une pièce d'or, emportée sur une assiette par un garçon, secouait l'appauvrissement de toutes ces femmes. Chacune, tour à tour, donnait superstitieusement au Louis un petit coup de dent. La nuit s'avançait cependant. Les tables peu à peu se vidaient. De temps en temps, un soldat, un peu moins ivre que son camarade, l'empoignait à bras-le-corps, l'arrachait de sa place avec une amitié brutale et passait la porte en se battant avec lui. Minuit enfin. Les volets se fermaient, le gaz de la salle était éteint. Il ne restait d'allumé que le lustre du fond, sous la lumière duquel, poussés et soutenus par les femmes qui leur tenaient compagnie, se serraient deux ou trois ivrognes indéracinables, bientôt rejoints par des noctambules de barrière qu'introduisait à toute heure la sonnette de nuit. Alors, dans les ténèbres emplissant la salle du café, près la porte du jour, dans une obscurité épaisse de la fumée du tabac et des molécules de la suante humanité renfermée, là, toute la soirée, on voyait les femmes avec des mouvements endormis, ayant et l'affaissement et la couleur grisâtre en abattement d'ailes de chauve-souris blessées, s'envelopper de tartans, de vieux châles, de la première loque qui leur tombait sous la main, cherchant les banquettes au pied desquelles il y avait moins de crachats. Là-dessus, elles s'allongeaient, inertes, brisées, épandues ainsi que des paquets de linge fripés dans lesquels il y aurait la déformation d'un corps qui ne serait plus vivant. Aussitôt, elles s'endormaient, et endormis étaient de temps en temps réveillés par leur propre ronflement. Un moment retirés de leur trouble rêve, elles se soulevaient sur le coude, regardaient stupides. Dans le cadre lumineux du fond, sous les trois grâces en zinc doré du calorifère, des pochards gesticulaient entre deux ou trois de leurs compagnes, assises sur des chaises à califourchon, sommeillant, la tête posée sur le dossier, les jupes remontées jusqu'à mi-cuisse. Se ressouvenant, les dormeuses retombaient sur la banquette, et là passaient la nuit jusqu'au jour, jusqu'à 4 heures du matin où elles allaient se coucher dans leur lit. Cette vie nocturne, cette vie éreintante, cette vie prodigue de son corps, Elisa la préféra tout de suite à la tranquillité épicière, à la claustration monotone, au train-train bonasse des établissements affectés au Pékin. dans la fadeur d'une existence en maison publique. Là, au moins, le pandémonium des nuits mettait autour de la prostituée le bruit de sa distraction étourdissante, un bruit capiteux, qui la grisait comme avec du vin. Elisa se prenait encore à aimer le tapage militaire que faisait tout le jour le quartier tambourinant, et ses sonneries de clairon de l'école militaire, réveillant soudain la fille de ses somnolences écœurées. L'origine des femmes se succédant dans la maison de l'avenue de Suffrène était diverse. Le plus grand nombre venait du quartier latin, d'anciennes danseuses de Bullier et du Prado, des ci-devant habitués de la rôtisserie de la rue Dauphine, auxquels n'avait point souri la chance et qui, de leur passé d'étudiante, de leur existence à la flamme des ponches, avaient conservé les habitudes d'une vie tapageuse aux nuits blanches. Quelques-unes avaient été embauchées en province. D'autres, de dégringolade en dégringolade, étaient tombés là, n'ayant pu se maintenir dans les quartiers riches par un certain manque d'éducation, une absence de tenue, le plus souvent tout simplement par la gêne que beaucoup de femmes de basse extraction ne peuvent jamais perdre quand elles se trouvent en contact avec les hommes des classes supérieures. De cela, il ne faudrait pas croire que dans cette maison il y eut une émulation de mauvais ton et de crapulerie. C'était le contraire. La fille, on le sait en ces endroits, ne parle pas au sens du peuple avec des paroles ordurières, avec des gestes obscènes, avec l'apparence arsouille. Dans ce qu'il aime à lire, dans ce qu'il va voir au théâtre, dans ce que ses amours cherchent dans les lieux de plaisir, l'homme du peuple n'est pris, n'est séduit que par une convention d'élégance, un simulacre de distinction, une comédie de maniérisme, un chic tel que de bonne éducation. La réalité ou la simulation d'un ensemble de choses est de qualité plus délicate que celle qu'il rencontre chez les mâles et les femelles de sa classe. Ce qui, sous le nom de la fille crottée, excite parfois le vice d'un monsieur, fait horreur au vice de la plèbe. Aussi, en dehors des échappées de la colère ou de l'ivresse, les femmes jouent là tout le temps, auprès de ces hommes rudes et mal embouchés, la douceur du geste, la caresse de la voix, le « comme il faut » de la personne. Leur bouche n'a pas de gros mots, leur impudeur naturelle vise à n'être pas cynique. Il y a chez elles un travail pour représenter, selon leurs moyens, autant qu'elles le peuvent, un certain bon genre. Et il arrive ceci qui mérite d'être médité. Dans les maisons de la haute prostitution, les filles trouvent le succès dans l'affectation du genre canaille, tandis que dans les maisons de la basse prostitution, c'est l'affectation du genre distingué qui fait l'empoignement des hommes venant s'asseoir dans la salle basse.